Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 15 % à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Thé et Lounge au 67 René Lévesque Est.
La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
89.1.
Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers.
Vous écoutez CKRL.
Sable d'Attaque Québec.
Bonjour à tous et bienvenue au Grain de sable. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée, votre magazine socio-économique, et on parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. On va aujourd'hui mettre en ligne le contenu de nos émissions et on aura chaque semaine un thème de discussion abordé avec vous. Aujourd'hui, on va faire une émission complète sur le sujet des immenses projets pétroliers américains qui touchent le Québec. En effet, Québec n'était pas entré de plein pied dans l'industrie pétrolière, mais risque aujourd'hui avec ce projet de devenir une étape importante pour exporter le pétrole de l'Alberta par oléoduc, par train et par bateau. Le Saint-Laurent deviendra alors une voie de navigation privilégiée pour le transport de l'or noir. Qui sont nos invités, Étienne, aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, on va d'abord parler du projet de port pétrolier à Kakuna, puisqu'il s'organise aujourd'hui même une manifestation contre le projet de port pétrolier de la compagnie TransCanada. Donc, on aura Nicolas Falcimeng, journaliste indépendant du journal coopératif Ensemble. Il va être là pour nous en parler. Ensuite, on va passer au sujet du transport ferroviaire du pétrole sur la rive sud. Même après l'explosion à Lac-Mégantic, même après les projets de construction de milliers de kilomètres d'oléoduc, il va quand même se transporter du pétrole par wagon. Ensuite, ce sera Émile Vigneault du groupe Bombe sur rail qui va nous parler de leur campagne de sensibilisation à vélo qu'ils mènent le long de ces voies ferrées.
Oui, ça, c'est des citoyens qui parcourent encore des kilomètres à vélo. C'est un autre groupe de citoyens différents, cette fois-ci de Stop Oléoduc, pas de Stop Oléoduc, mais la Marche des Peuples pour la Terre-Mère. C'est un autre groupe qui s'appelle, qui est parrainé, disons, par Tache d'huile. Ça s'appelle Bombe sur rail. C'est donc des citoyens très, très engagés qui vont nous parler aujourd'hui.
Oui, oui. Et en toute fin d'émission, on aura l'avocate Karine Pelleffy qui va nous parler des enjeux juridiques du projet oléoduc Énergie Est de la compagnie TransCanada que je mentionnais plus tôt.
Excellent. Tout un programme. Donc, on va commencer par une petite pause musicale avec Manifeste de Thomas Jensen.
C'est manifeste, on manipule. C'est manifeste, on met les points sur les i. Et sur la table, on met le doigt sur la gâchette, on manipule. C'est manifeste, on manifeste. On manifeste. On manifeste, on crie famine. On manipule, on teste. On lâche du lest sur la vermine. On détruit, on mine. On exploite, on élimine. C'est manifeste, on manifeste sans scrupule. On manipule, c'est manifeste, on fait la fête malgré les risques, c'est ridicule. Capitalisme, homicide, on pesticide, on tue les bêtes comme des monstres industriels. On est réel, c'est manifeste, on manipule le reste.
sans éthique, on étiquette, on brevette, on met en éprouvette. Et qui c'est qui paye la note? C'est la planète. Et qui c'est qui paye la note? C'est la planète. Et soyons honnêtes, quand je dis la planète, c'est surtout les pauvres types enchaînés à la tête, entraînés à la diète. Faut pas t'étonner, mec, qui nous défait, c'est manifeste. Et nous, on manifeste, 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 manifeste.
Déteste. Homo sapiens, c'est manifeste, tu ne sais rien, tu te détestes. Homo sapiens, c'est manifeste, tu ne sais rien, tu te détestes.
C'était la chanson Manifeste de Thomas Jensen, un artiste montréalais. Nous allons aujourd'hui rejoindre Nicolas Falcimaigne, président et journaliste, journaliste indépendant, membre de la coopérative de journalisme Ensemble. Il est en direct de Kakuna, où le projet de port pétrolier fait l'objet d'une grande mobilisation. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marie-Christine.
Est-ce que tu nous entends bien?
Oui, moi je vous entends bien. J'espère que vous m'entendez bien également parce que l'ambiance est assez survoltée ici.
Oui, on entend beaucoup de gens qui parlent derrière. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, ben là en ce moment c'est le coup d'envoi de la marche. Martin Poirier, de nom Anne-Marie Noire, dans le Saint-Laurent, vient de donner le coup d'envoi et les tambours se mettent de la partie. Alors, je vais m'éloigner un petit peu en précédant la manifestation pour que vous puissiez bien m'entendre.
Merci beaucoup. Et combien de personnes se sont réunies aujourd'hui à Kakuna?
Hey, c'est difficile à évaluer, mais si vous voyez la place devant l'église de Kakuna, elle était remplie de monde. Donc, on peut s'attendre à ce que le décompte, quand il sera fait, soit de plusieurs milliers de personnes.
Plusieurs milliers de personnes, donc est-ce que...
Ben, plusieurs centaines, mais enfin, je crois qu'on va parler de quatre chiffres. Là.
OK, d'accord. Et puis, qu'est-ce que demandent tous ces gens? C'est quoi les revendications?
Ben, en fait, c'est des gens qui se sont déplacés à Kakuna et des gens de Kakuna également qui se sont mobilisés pour demander au gouvernement de stopper le projet de Trans-Canada. Le projet de Trans-Canada, c'est de faire un port pétrolier à Kakuna, où il y a déjà un port en eau profonde, qui s'appelle le port de Gros Kakuna. La compagnie Trans-Canada veut y installer un port pétrolier pour exporter le pétrole de l'Alberta. Ça fait partie du projet Énergie Est, qui compte un oléoduc qui part de l'Alberta pour se rendre jusqu'à Saint-John, Nouveau-Brunswick. Et à Kakuna, il y aura un port pour exporter en passant.
Est-ce qu'il y a des forces policières présentement autour de vous? Ou...
Oui, c'est même une première là pour une première. Les premières manifestations à Kakuna comptaient beaucoup moins de monde quand même. Donc là, c'est sans précédent. Puis il y a deux voitures de police qui ont été déployées là pour ouvrir et fermer la marche.
Puis les choses se passent bien, à ce qu'on entend.
Oui, très bien. Puis on s'attend pas à ce que la manifestation donne lieu à quelconque désordre.
Quels travaux actuellement sont en cours dans le port de Kakuna exactement? Est-ce qu'ils font des... Là, c'est suspendu jusqu'au 16 octobre, mais est-ce que vous... c'est quoi les travaux sur lesquels les citoyens se prononcent ou s'opposent actuellement?
Bon, les travaux préparatoires à la construction du port pétrolier ont commencé ce printemps. On a commencé par des levées sismiques qui étaient des détonations de 220 décibels sous l'eau pour faire des sondages stratigraphiques là, du sous-sol marin pour savoir où installer le port. Maintenant, ces sondages-là continuent, mais sous la forme de forage. Alors, on parle de sondages géotechniques. Et la compagnie TransCanada a déployé deux barges pour faire ces forages-là. Ils ont besoin de 95 jours à raison de 5 heures par jour pour mener ces travaux-là. Et il faut savoir que les exigences du permis du ministère de l'Environnement sont que aucun mammifère marin doit se trouver dans la zone. Et évidemment, il y a des observateurs qui sont déployés. Et pour faire leur travail, les observateurs doivent... il ne doit pas y avoir de vent et de vagues. Sinon, ils peuvent pas faire leur travail. Donc, c'est des conditions idéales qui se prennent pour faire les travaux. 95 jours. Maintenant, la Cour a ordonné l'arrêt des travaux. C'est une injonction qui a cours jusqu'au 15 octobre. Donc, les travaux ne pourront pas reprendre avant le 15 octobre. Et ce printemps, ils n'ont pas pu se dérouler après le 30 avril.
OK. Donc là, il nous reste une minute. Les manifestants qui sont sur place s'attendent à avoir... quelle est leur principale attente face à cette mobilisation-là?
Bien, le ministre Couillard a répété à plusieurs reprises que les travaux continueraient après l'injonction qui prend fin là, le 15 octobre. Donc là, les manifestants sont venus demander... que malgré que l'injonction prenne fin, que les travaux soient suspendus et arrêtés pour de bon.
Donc, on s'attend à l'arrêt des travaux carrément?
Oui. En fait, c'est ce qui est demandé, évidemment. Là. Mm-hmm.
Excellent. Et qui sont les gens présents? Est-ce qu'on a tous les groupes Stop Oléoduc, Non Aide Marée Noire dans le Saint-Laurent?
Oui, tous les groupes sont présents, comme vous l'avez dit, là, Stop Oléoduc, Non de Marée Noire, Greenpeace est là. Il y a plusieurs autres groupes là, dont je peux pas dresser la liste maintenant. Mais avant le départ de la manifestation, beaucoup de gens ont pris la parole et se sont opposés catégoriquement au projet. Même le maire de Saint-Siméon qui a parlé au nom des élus.
Parfait. On va pouvoir suivre ça dans le journal Ensemble, j'imagine, hein?
Oui, bien sûr, on va publier quelque chose là, dans le courant de la fin de semaine.
Excellent.
Avec la vidéo.
Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, bonne journée.
Au revoir. On va partir en pause avec la chanson « Respire » de Mickey 3D.
Approche-toi, petit, écoute-moi, gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
De retour au grain de sable, et on va parler maintenant avec Émile Vignon, qui fait partie d'un groupe de citoyens qui font une tournée finalement de différents villages le long du Saint-Laurent pour parler des enjeux reliés au pétrole. Bonjour Émile.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien. Donc c'est ça, nous autres, on est une initiative citoyenne, on s'appelle Bombe sur rail, et puis on est trois personnes qui sont parties en vélo de Québec. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait toutes les municipalités, donc les petits villages, les villes, tout ça, tout le long de la traque de chemin de fer, jusqu'au point où le pétrole va être exporté au port de Belle Dune, au Nouveau-Brunswick. Puis, c'est ça, notre enjeu, dans le fond, c'est les trains pétroliers qui se multiplient. On parle déjà d'une augmentation de 2000% cette année du transport par rail de pétrole au Québec par rapport à l'an passé. Et puis, le projet qui s'en vient, en plus de ça, ça va être 240 wagons par jour qui vont passer dans ces municipalités-là. Ça va être les mêmes wagons qu'à Lac-Mégantic, sans beaucoup plus de garantie de sécurité. Depuis Lac-Mégantic, il y a eu une dizaine d'autres incidents semblables. C'est seulement qu'on a eu de la chance, ça n'a pas tué personne, ça s'est fait en dehors des grands centres.
Au Québec, mais ça, au Québec, c'est arrivé?
Non, dans toute l'Amérique du Nord, dans le fond. Il y a eu une dizaine d'autres incidents, pareils à ceux de Lac-Mégantic, des explosions, des déversements. Simplement, comme c'était pas dans des grands centres, on en a moins entendu parler. Entre autres, avec la compagnie nous promet des nouveaux wagons, mais des nouveaux wagons ont aussi explosé à Lynchburg, en Virginie. Donc, on parle d'un enjeu qui est extrêmement pertinent, qui est extrêmement... c'est extrêmement dangereux pour la population, tous ces nouveaux projets-là de pétrole.
Puis ça dépasse le Québec, hein? C'est plutôt, on parle d'enjeux qui touchent l'Amérique au grand complet.
Oui, oui.
Donc, vous, quels sont vos principaux points, les principaux arguments ou les principales discussions? Comment vous abordez le sujet avec les citoyens? Je sais que c'est plusieurs questions différentes, mais vous vivez actuellement ça concrètement dans chaque village où vous allez. Donc, peut-être que vous pouvez nous parler de comment ça se passe. Quand vous commencez une conversation avec un citoyen, vous lui dites quoi?
Bien, je vous dirais que ça dépend des places, ça dépend des gens. Dans chaque ville, chaque village où on va, il y a du monde mobilisé, puis il y a du monde qui le sont moins. Ça dépend de ce qui touche les gens. Ces projets-là, on nous promet souvent les gens ont l'impression que qu'on a besoin du pétrole, que c'est ça, faut que ça passe ce qu'on a besoin, alors que le projet de ces projets-là de train pétrolier, ainsi que le projet de pipeline et les projets de pétroliers géants qui parcourent présentement le Saint-Laurent, ben c'est tout du pétrole qui est destiné à l'exportation. C'est du pétrole dont pas une seule goutte ne va parvenir au Québec. Puis s'il y a des déversements, ben ça va être aux municipalités d'en subir les coûts. Donc souvent, on essaie de démolir un peu l'argument économique qu'on nous sert de ben, ça va créer de l'emploi. En fait, ça va créer en tout, dans le cas du pipeline, une vingtaine d'emplois à Kakuna à terme. Dans le cas des trains, une vingtaine d'emplois au port de Belleville au Nouveau-Brunswick à terme. Donc, aucune retombée économique pour le Québec. Donc, souvent, on amène cet argument-là pour, de facto, de prime abord, désamorcer l'argument économique qui est absurde, finalement. Et puis aussi, bien, environnementalement, c'est le pétrole des sables bitumineux. C'est un pétrole qui est extrêmement coûteux à produire. C'est un pétrole qui est extrêmement dommageable pour l'environnement. Il produit en utilisant d'énormes quantités d'eau, d'énormes quantités de gaz naturel. Donc, c'est ça. C'est un des pétroles les plus polluants au monde.
Est-ce que vous rencontrez des maires, des gens qui sont au centre des décisions dans les municipalités où vous allez?
Oui. Oui, dans chaque municipalité, on a remis une lettre au maire ou à la mairesse qui se trouve en place pour l'informer de ces enjeux-là. Il y a des municipalités où les instances municipales nous accueillent très très bien. On parle d'Amqui présentement dont le maire a émis un moratoire finalement pour que les municipalités aient un impact sur ces projets-là qui les traversent. Faut dire que le chemin de fer, c'est de compétence fédérale. Hein. C'est que les municipalités, en théorie, et le gouvernement provincial n'ont comme rien à dire sur qu'est-ce qui transite par les rails au Québec. Et ce, bien qu'il y ait un danger réel pour la population. En fait, on ne sait même pas ce que contiennent les wagons. On peut le savoir que 3 mois après qu'ils soient passés. Donc, il y a des maires présentement qui sont en train de se regrouper, de former un regroupement de municipalités pour contrer ces projets-là, dire ben ça passe chez nous, comment ça se fait qu'on n'a pas d'emprise sur notre territoire, comment ça se fait que c'est le fédéral puis les compagnies qui décident tout, comment ça se fait que tous les profits de ces projets-là vont aller aux compagnies puis qu'on n'en touchera pas une scène. Dans le fond, ces enjeux-là rejoignent aussi l'enjeu des accords de libre-échange que le Canada est présentement en train de signer, qui l'a signé aussi il y a 10 ans avec l'ALENA. Mm-hmm. Et puis, ça permet aux compagnies, finalement, de poursuivre les gouvernements sur la base de n'importe quelle loi qui les empêcherait un petit peu de faire de l'argent, n'importe quelle loi adore. Puis, et ce, pas devant des tribunaux canadiens ou des tribunaux américains, mais devant des tribunaux internationaux créés de toutes pièces qui bypassent tous nos tribunaux. Donc, c'est des enjeux qui rejoignent d'autres enjeux, finalement, plus grands sur la planète. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire prendre conscience aux gens que, ben, si on se mobilise, puis on est capable de le faire, on l'a déjà fait, ben, on peut reprendre le contrôle de notre territoire, on peut reprendre le contrôle de nos ressources. C'est vraiment un point essentiel. Au Québec, on est un des endroits dans le monde où il y a le plus de ressources naturel, qu'on parle du sous-sol, qu'on parle des forêts, qu'on parle de l'eau potable, qu'on parle de n'importe quoi. On est un des pays au monde les plus favorisés. Et puis, bizarrement, ben, c'est comme si les autres, les compagnies, finalement, viennent profiter de ça, mais nous autres, on n'en voit pas la couleur.
Comment les gens réagissent à votre discours?
On a toutes sortes de réactions. Je vous dirais qu'en Gaspésie, les réactions sont très bonnes. Il y a pratiquement personne ici qui veut que ça passe. Un peu plus haut, au Bas-Saint-Laurent, les gens étaient moins au courant de l'enjeu. Donc, il y avait plus un gros travail d'information à faire. Néanmoins, comme je vous disais, dans chaque municipalité où on est passé, il y a des gens qui sont mobilisés. Il y a des gens qui travaillent contre ces projets, ces méga-projets pétroliers-là. Dans le fond, c'est ça. C'est, oui, il y a une grosse partie de désinformation sur ces enjeux-là. Dans les médias, habituellement, on entend seulement le point de vue des compagnies qui nous disent « ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'emploi ». Mais oui, mais créer une vingtaine d'emplois à terme en se mettant à genoux devant les multinationales, c'est pas ce que j'appelle créer de l'emploi.
Il n'y a pas aussi l'enjeu sécuritaire? On ne dit pas aussi que c'est plus sécuritaire le transport par train que par oléoduc?
Ben c'est ça aussi, ces projets-là, ça mène en se contredisant un peu. Les gens de l'oléoduc essayent de nous passer l'oléoduc en nous disant « Ah, mais vous voyez ce qui est arrivé à Lac-Mégantic avec les trains, dans le fond, on va passer un oléoduc, c'est que ça va être plus safe. » Mais dans le fond, ils font les deux. Ils augmentent le transport par rail, ils augmentent le transport par oléoduc, donc ils construisent l'oléoduc, et puis ils augmentent le transport par bateau sur le Saint-Laurent, des pétroliers géants qui vont de plus en plus loin à l'intérieur des terres. Donc, on essaie de nous passer du pétrole par tous les côtés, par tous les bords possibles, sans qu'on ait de contrôle là-dessus, puis le plus rapidement possible. Parce que pour les compagnies, il faut que ça sorte. Ils l'ont déjà vendu, ce pétrole-là, à l'étranger, avant même de savoir s'ils allaient être capables de l'exporter. Puis là, ce qui se passe présentement, c'est que leur projet de pipeline, en Colombie-Britannique, les gens n'en veulent pas. Fait qu'ils sont en train de bloquer ça. Ça passe sur plusieurs territoires autochtones. Aux États-Unis, Keystone XL, il y a une grosse opposition aussi. Par l'Est, aux États-Unis, la ville de Portland, qui a pourtant toutes les infrastructures pour le faire, a refusé de faire passer le pétrole des sables bitumineux parce qu'ils ne jugeaient pas que c'était approprié pour leurs citoyens. Donc, la dernière voie possible pour eux autres, c'est le Québec. Puis, si les gens s'unissent, bien, comme avec les États-Unis pour Keystone XL, comme avec la Colombie-Britannique pour Northern Gateway, ben on va bloquer ça. Puis le pétrole des sables bitumineux, ben il va rester dans l'Ouest, dans la terre, là où est-ce qu'il est censé être. Et puis on va pouvoir développer notre économie en se mettant debout et puis en favorisant les initiatives locales de création d'emplois, plutôt qu'en valorisant le fait de se mettre à genoux devant les multinationales puis de s'aplaventrer finalement à tout bout de champ devant les compagnies.
Merci, Émile. Maintenant, si les citoyens qui écoutent veulent avoir plus d'informations sur ce que vous faites, est-ce qu'il y a un site web pour vous suivre ou de l'information qu'on peut aller chercher?
Oui. Notre site web, c'est rail en un mot. Donc, www.bombesurrail.com, où ce que vous pouvez voir une carte de notre trajet. Il y a des articles de blog aussi à tous les jours sur qu'est-ce qu'on fait dans chaque municipalité. Et puis, vous pouvez aussi vous informer auprès des... si vous voulez vous mobiliser, parce qu'il y a de plus en plus de mobilisation, ben il y a plein d'organismes à Québec, comme par exemple les Stop Oléoduc Capitale Nationale, qui est près de chez vous, qui se préoccupe de ces enjeux-là. Mmh. Et puis, il y a d'autres organismes aussi également en région. Il y a par exemple Tache d'huile en Gaspésie.
D'accord.
Qui fait un grand travail.
Merci beaucoup, Émile Vignon. On vous souhaite une bonne chance pour la suite de votre périple.
Merci beaucoup.
Et on vous suivra pour la suite.
Parfait, au plaisir.
Au plaisir. On va nous maintenant partir en pause pour être de retour dans 6 minutes.
C'est ma mère au centre chaud.
Mon père avait laissé ma mère au centre chaud.
John et Lisa s'apprêtent assis sur le sofa.
John et Lisa s'apprêtent assis sur le sofa.
Un hold up en première page. Ça y a sauté dans le visage. Puis est sorti pour checker ça. Après avoir laissé ma mère au centre d'achat.
Après avoir laissé ma mère au centre d'achat.
Mon père était parti pour s'acheter du tabac.
Mon père était parti pour s'acheter du tabac.
En sortant de la tabagie, il a entendu deux coups de fusil. Puis s'est demandé ce qui se passait là.
Ma mère debout sur le comptoir, avec un gun entre les mâchoires, qui faisait peur aux employés du magasin d'antiquité. Mon père rentre dans le magasin, suivi de John et puis de ses copains. Ma mère le tire à bout portant, avec son gun noir chargé à blanc.
Mon père.
C'est plutôt une race psychologique qu'un produit social.
Je crois, oui.
89.1 CKRL.QC.CA.
Le 2 novembre, c'est jour d'élection scolaire au Québec. Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Vérifiez votre inscription en consultant l'avis que vous avez reçu par la poste. Pour ceux qui ont droit, vous avez jusqu'au 14 octobre pour faire le choix de voter à la commission scolaire francophone ou anglophone qui dessert votre domicile. Parce que l'éducation, c'est l'affaire de tous, le 2 novembre, je vote sans faute. Un message du directeur général des élections du Québec.
Ici Raymond Côté, député de Beauport-Limoilou. J'ai pu constater lors de ma tournée estivale que la contamination en poussière toxique en provenance du port de Québec vous touche encore fortement au quotidien. Face à cette situation qui perdure depuis 2 ans, vous êtes nombreux à vous poser des questions et à exiger des réponses. C'est pour cette raison que je vous convie à une soirée d'information qui se tiendra jeudi, le 16 octobre 2014, à 19h au Centre Horizon. Madame Véronique Lalande et Monsieur André Bellil de la QLPA seront également présents pour vous informer. Consultez ma page Facebook et inscrivez-vous auprès de mon bureau au 418-663-2113.
L'Action de grâce au Cercle, ça va brasser. Avec des événements pour tous les goûts et ce, tous les soirs, venez profiter avec nous du long congé. De jeudi à dimanche, le Cercle accueille les spectacles de Heavy Trash, Bloodshot Bill, Beach House, Dead Obies, Pierre Quenders, Southern Cross and Isos. Aussi, du Late Night avec les Jeudis Saint-Roch, Chico Tropical avec High Classified, la célébration des 10 ans de Phono et Disco Jungle. Informez-vous sur lecercle.ca. On se voit au Cercle?
Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez
20,000 Days on Earth, La Belle et la Bête, Le Juge, l'Opéra National de Paris présente Balanchine et Mille Pieds, la Rencontre internationale du documentaire de Montréal à Québec présente Is the Man We Stole Happy, Tu veux ou tu veux pas.
Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation,
20,000 Days on Earth, Aventurier Voyageur Guatemala, La Belle et la Bête, Tu veux ou tu veux pas.
Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.
89.1. Les chars soviétiques entrent dans Budapest.
Un deuxième char le suit de près?
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux.
CKRL.QC.ca.
Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone.
Chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète.
est à moi, je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guère. Qu'elle vole vos maisons au-delà des mers. Vous donnerez des noms à mes colères. Vous êtes la raison de vos prières. Et vous aurez raison de vos cimetières. Qu'elles jaillissent les eaux sur votre espèce. Vous n'aurez plus conscience de votre petitesse. Je ferai de vos villes ce bel enfer. Plus chaleureuse encore que le paradis. Vous tremblerez de peur dans vos demeures. Car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie.
Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Proche, ça la rend fou. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous. La terre en a ras-le-bol. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche, ça la rend fou. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous.
Sur cette belle chanson, nous sommes de retour au Grain de sable et vous venez d'entendre « Elle pleure ma planète » de Ridan. On rejoint maintenant une avocate qui est spécialisée en droit environnemental et qui travaille au Centre québécois du droit environnemental à Montréal. Ce centre vient tout juste de sortir un rapport la semaine dernière sur les enjeux juridiques du déploiement d'un pipeline interprovincial sur le territoire du Québec. Donc, on vient de parler à des citoyens à Kakuna avec des gens qui sont dans Bombe sur rail. Quels sont les enjeux juridiques autour de tout l'enjeu pétrolier, finalement? C'est de ça qu'on va parler avec Mme Pelloffi. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, vous?
Oui, ça va très bien. On est bien heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu toutes les retombées du rapport que vous venez de sortir la semaine dernière. Et finalement, quels sont les principaux points de votre rapport?
Notre rapport, c'était une première étape dans le travail de ce que le CQDE veut faire autour des pipelines. Donc, c'est plus comme un genre de tour d'horizon pour expliquer le cadre juridique qui entoure le pipeline. Disons que la grande question à se poser, c'est une question de compétence constitutionnelle, parce qu'on sait que le gouvernement fédéral est très, très favorable au projet, alors que le gouvernement du Québec semble aussi très favorable. Et puis, au niveau des municipalités, par ailleurs, il y a une certaine opposition. Je pense qu'il y a 20 municipalités qui ont signé des résolutions opposant le projet. Et donc, la question, c'est de savoir si une municipalité a un pouvoir législatif de refuser le pipeline sur son territoire. Le promoteur du projet, le gouvernement fédéral, disent que c'est une compétence entièrement fédérale. Nous, on n'en est pas tout à fait certaines. Et en fait, le recours que le CQDE a engagé par rapport au port de Kakuna avec les Belugas, prouve en fait que le Québec a une compétence, au moins en matière environnementale, sur le projet. C'est la grande question qu'on va essayer de développer le plus rapidement possible, parce que c'est une autre constatation dans le fond du rapport, c'est que avec les amendements législatifs que le gouvernement fédéral a fait en 2012 à la loi sur l'Office national de l'énergie, c'était en fait pour s'assurer que l'approbation d'un projet de pipeline comme celui de Trans-Canada allait aller très vite, donc en un maximum de 18 mois à partir du moment où Trans-Canada applique officiellement. Et selon les murmures dans l'industrie, on s'attend à ça la semaine prochaine. Donc à partir de ce moment-là, un an et demi.
C'est un peu comme un marathon.
Exactement.
Et vous avez dans votre rapport expliqué qu'il y avait trois étapes à franchir pour qu'un projet de cette envergure-là puisse être accepté. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces étapes-là?
Ben, écoutez, je vais être honnête avec vous. La personne qui a rédigé le rapport, c'est Alexandre Desjardins, et lui, il est à la marge de Kakuna aujourd'hui. Donc, je suis comme le remplacement qui tenait le rapport en général, mais pas dans ses détails, mais je dirais de ce que je sais.
C'est au niveau juridique, il y a une étape préalable qui permet d'accepter le projet. Ensuite, c'est de définir les contours et les conditions sous lesquelles ce projet-là va être accepté. Puis ensuite, c'est la validation finale. C'est ce que j'ai compris dans le rapport. Est-ce que c'est bien ça?
Ben oui, au niveau en fait, c'est ça. Il y a deux niveaux de gouvernement qui vont se pencher sur la question. Le premier, c'est à l'Office national de l'énergie. Donc, Trans-Canada va soumettre sa proposition officielle. Ensuite, l'Office national de l'énergie va avoir des audiences. J'oserais pas nécessairement les qualifier de publics, là, parce que déjà, beaucoup de recours en cour fédérale, justement, qui contestent le nouveau processus qui est suivi à l'ONE parce qu'il limite énormément la partie. Et parce que, notamment, il est interdit d'y faire des représentations sur les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre associées au projet. Donc, bref, il y a cette première étape. Ensuite, l'Office national de l'énergie va faire une recommandation au gouverneur en conseil et proposer des conditions qui devraient accompagner le projet s'il était approuvé. Et ensuite, le gouverneur en conseil a 3 mois pour décider finalement si ça va aller de l'avant.
Et la deuxième étape, ce ne sera pas avant l'an prochain, si j'ai bien compris?
C'est l'année, en fait, 15 mois, je pense, pour rendre sa recommandation. Et ensuite, le gouverneur en conseil a 3 mois, donc au total, c'est 18 mois. Et entre-temps, il y a aussi le gouvernement du Québec qui devrait y avoir un bac, au moins sur le port pétrolier. Il y a beaucoup de groupes environnementaux et le CQDE, par ailleurs, qui pensent que le BAP, en fait, devrait s'appliquer sur l'ensemble du projet parce que au Québec, un pipeline de plus de 2 km doit être soumis à une procédure du BAP. Mais on est encore en attente de savoir quand est-ce que le gouvernement va lancer cette initiative-là. Et c'est assez important parce qu'une des choses qui nous inquiète, c'est le fait qu'il y a présentement des travaux de forage qui vont peut-être recommencer le 15 octobre.
Oui, vous avez d'ailleurs réussi à faire suspendre les travaux jusqu'au 15 octobre.
Donc, on a une injonction qui empêche les travaux de forage jusqu'au 15 octobre. C'est la date, disons, ultime où on sait que les belugas fréquentent intensivement la zone. À partir de cette date-là, ils commencent à se déplacer apparemment plus vers l'est. Mais ce qu'on a appris hier, en fait, c'est que le gouvernement du Québec vient d'émettre un avis de non-conformité à Trans-Canada concernant les allers et retours des bateaux pour la plateforme de forage qui ne serait pas en accord avec les conditions de leur sortie de l'autorisation. Et une autre chose assez inquiétante, c'est que Trans-Canada devait commencer par faire les deux forages les plus bruyants à Kakuna et faire des mesures de son pour savoir si la fameuse zone d'exclusion était assez grande.
On parle de zone d'exclusion, ça veut dire la distance entre les belugas et les travaux, c'est ça?
Exactement, c'est ça. C'est que la façon dont c'était déterminé en cherche d'autorisation, ça disait que si un beluga rentre dans un périmètre de 540 mètres autour de la plateforme de forage, que les forages seraient arrêtés. Et puis, ce qu'on a appris hier, en fait, c'est que la zone où le bruit atteint un certain niveau qu'on détermine être un niveau dérangeant pour le beluga allait jusqu'à 2,7 km, en fait, au lieu de 540 mètres. Donc, la zone d'impact est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Et puis, en fait, ça équivaut pas mal à la zone. C'est en fait plus grand que la zone d'impact qui avait été calculée par notre expert scientifique Robert Michaud. Et donc, c'est assez inquiétant, en fait, parce que, dans le fond, ces forages ont eu lieu, à ce qu'on sache, entre le 8 et le 23 septembre, donc durant la période de normalement hautement fréquentée par les belugas. Et ils ont probablement évité la zone dans un périmètre plus grand que ce qu'on pensait.
Donc, vous, la démarche que vous faites actuellement vise à... votre objectif, c'est de faire arrêter ces travaux-là?
Bien, en fait, il y a comme deux niveaux. Il y a l'idée d'arrêter les travaux pendant que c'est une période extrêmement importante pour les belugas. Cette période-là finit bientôt. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que probablement, de ce qu'on sait de l'ampleur des travaux qui doivent être réalisés, Trans-Canada n'aura probablement pas le temps de les terminer avant que les glaces arrivent dans Saint-Laurent au mois de novembre-décembre. Et donc, si c'est le cas, probablement qu'ils vont appliquer encore une fois pour un autre certificat au printemps. Et là, on risque de retomber encore une fois dans une période de haute fréquentation des belugas. Et on voudrait surtout pas que le même processus se reproduise. Donc, nous, on continue le processus judiciaire sur le qu'on appelle l'injonction permanente. Et à ce moment-là, nous, on veut faire annuler le certificat d'autorisation, même s'il ne sera plus en vigueur parce qu'il termine le 30 novembre. On veut le faire annuler, puis que le gouvernement, la prochaine fois qu'il émet un certificat, ait des balises plus claires sur le processus qui doit être suivi et l'avis scientifique qui doit être fourni.
Et la démarche que les citoyens font actuellement, ça complète bien vos initiatives à vous. Dans le rapport, j'ai remarqué que c'était mentionné que les citoyens avaient un rôle important à jouer là-dedans.
Oui, on est assez spécial au Québec parce que on est la seule juridiction, à ma connaissance, en Amérique du Nord où on a un droit fondamental à vivre dans un environnement sain et dans le respect de la biodiversité. Donc, au niveau juridique, ça nous laisse penser que au Québec, les citoyens auraient peut-être d'autres droits à faire valoir par rapport à ce projet-là que dans les autres provinces canadiennes ou aux États-Unis, pour faire des comparaisons avec les luttes de pipeline qui se passent dans ces deux juridictions-là aussi. La mobilisation citoyenne au Québec est historiquement assez forte. Donc, si on combine la mobilisation citoyenne avec le droit à un environnement sain, je pense que effectivement, on n'a pas dit notre dernier mot, puis c'est loin d'être une chose faite.
Et d'ici le 15 ou après le 15, quel recours ou quelle implication est possible pour un citoyen ordinaire qui s'oppose au projet de port pétrolier à Kakuna?
Je dirais la première chose, de nous appeler, avoir une petite conversation téléphonique parce que c'est des zones juridiques qui sont quand même complexes. Là. On est en train de défricher ça et on va le plus vite possible, mais il y aurait diverses façons de regarder, dépendamment de si c'est un citoyen sur la terre de qui passe le pipeline. Ben là, il y a toute des négociations qui vont avoir lieu. Il y a peut-être essayer de faire un droit de refus. Il y a les municipalités, il va s'engager au niveau des municipalités pour essayer de faire passer des résolutions qui opposent un pipeline. Faire des pressions auprès du gouvernement québécois pour qu'il exerce sa compétence et son un droit de refus sur le projet.
Puis de ça, vous dites que le Québec est particulier à ce niveau-là. Il a le droit de refuser parce qu'il y a il y a comme un ensemble de lois environnementales qui le distinguent des autres provinces à ce niveau-là, c'est ça?
Bien, c'est un argument à faire, là. Je dirais pas que c'est l'état du droit en ce moment. En ce moment, on sait qu'en matière environnementale, la compétence constitutionnelle, elle est partagée. La Cour suprême a toujours dit que notre constitution était un arbre vivant et donc qui évoluait à la mesure du temps. Donc, c'est une question à se poser, à savoir qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un recours qui se rendrait jusqu'au tribunal supérieur de notre pays. On va voir aussi quelle sorte de décision, parce que là, la décision préliminaire qu'on a eue de la juge Roy, c'est une décision très factuelle qui regardait vraiment ce qui s'est passé dans la preuve documentaire au niveau du gouvernement du Québec. Mais au niveau du jugement sur le fond, on espère vraiment avoir un éclairage justement sur est-ce que notre droit à un environnement sain a un impact sur la façon que ces projets-là doivent être approuvés, révisés, le niveau de consultation publique qui est nécessaire. Il y a plein de questions qui vont très fondamentales qui vont se poser dans les prochains mois.
Donc, meilleur moyen pour suivre ça, c'est de vous suivre sur votre site Internet. Vous êtes présent aussi peut-être dans les médias sociaux.
Oui, notre site Internet, on est aussi sur Facebook. Et puis, ce guide-là, comme je vous dis, c'est une première étape. Donc, s'il y a des citoyens qui se sentent interpellés par cette question-là, on les invite à prendre contact avec nous puis essayer de voir plus en détail les questions qui vont se poser.
C'est ça. En lisant le texte, j'ai bien compris que c'était adressé à des journalistes, à des citoyens, à des gens qui ne sont pas spécialisés en droit et qui se posent des questions sur tous ces enjeux-là qui sont assez complexes.
Oui, exactement, parce que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des questions très légitimes sur ce projet-là. Puis, tout ce qu'on entend, disons, dans les médias, c'est tout va bien, on a tous les certificats nécessaires, on collabore, on est transparent, mais notre cours a démontré qu'il y a des lacunes assez fondamentales dans la façon que ce projet-là va de l'avant à date au port de Kakuna. Donc, oui, on voulait que les citoyens puissent comprendre le plus possible c'est quoi le cadre législatif existant et comment ils peuvent le mieux faire valoir leurs droits dans ce contexte-là.
Karine Pelloffi, merci beaucoup pour votre temps et on vous souhaite bonne continuation dans vos démarches.
Merci beaucoup. Passez une belle journée.
Bonne journée. Et c'est l'heure de notre chronique.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Alors, c'est le moment de parler des activités engagées à Québec. Allô, Michael.
Oui, bonjour, bonjour. Je trouve que la chanson thème est à propos. Hein. C'est dans la rue que ça se passe à Kakuna. Puis la chanson dit aussi qu'un bulletin dans une boîte, ça change pas grand-chose. Je veux pas être cynique, mais voter bleu, rouge, bleu pâle, rouge pâle, on a tendance, c'est tous des gouvernements un peu néolibéraux. Donc, c'est vraiment dans la rue qu'il faut aller de temps en temps. Donc, oui, je vous présente les événements... les principaux événements engagés à Québec de cette semaine. J'en nomme une couple rapidement. Mercredi 15 octobre, une conférence qui s'appelle « Écologie et pauvreté ». Ça fait partie des fameuses conférences des soirées relations. Donc, on a un professeur en service social. On a une femme, Inou Wendat, et Maud Prudhomme, représentante du regroupement québécois des groupes écologistes, qui vont tous s'exprimer sur le lien entre l'environnement, le social, pauvreté, etc. Donc ça, c'est à 19h au centre Frédéric Bac, c'est-à-dire le 870 avenue Salaberry.
Petite question. Quoi? Est-ce que la revue Relations est en lien avec ça?
Oui, oui, c'est le même organisme qui fait tout ça, okay. Qui est-à-dire le centre Justice et Foi à Montréal. Ce jeudi 16 octobre, je vous en nomme deux. Il y a le projet Accompagnement Québec-Guatemala qui va faire une soirée d'information. La raison pourquoi c'est important, c'est que là, on a essentiellement des abus et des violations du droit faits par des minières canadiennes. Donc, je recommande leur soirée d'information. C'est à 18h30 à l'Université Laval, pavillon de Coninck, salle 3470. Aussi ce jeudi, poussière toxique émanant du port de Québec. C'est organisé, ni plus ni moins, par le député de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté du NPD, mais il y a aussi Véronique Lalande de l'Initiative citoyenne qui va être là, et même André Bellil aussi, de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Monsieur Bellil qu'on a interviewé la semaine dernière, qui vont être là. Donc ça, c'est à 19h au centre Horizon à Limoilou, c'est-à-dire le 801 sur la 4e rue. Vendredi 17 octobre. C'est une journée importante, hein? C'est la Journée internationale contre la pauvreté. En fait, ça c'est la version onusienne. En Europe, les groupes sociaux parlent de Journée mondiale du refus de la misère. Il y a plusieurs noms, mais ça date essentiellement lorsque les droits humains ont été mis en place dans je sais plus trop quelle année, je l'avoue. Il y a des gens qui ont été sur une place qui s'appelle le Trocadéro à Paris et qui ont manifesté pour rappeler que les droits humains, ça inclut les droits sociaux, ça inclut la lutte à la pauvreté. Donc, c'est une journée mondiale importante. Et il y a un rassemblement à Québec, devant l'Assemblée nationale, vers 16h, et qui va se déplacer, en fait, vers la nuit des sans-abri, que tout le monde, j'imagine, connaît. Donc, la nuit des sans-abri qui a lieu à tous les années, donc entre 17h et 2h du matin, sur la place de l'Université du Québec, c'est-à-dire les Jardins Saint-Roch. Le cœur des activités, c'est de 18h à 2h du matin. Je vous invite à y aller. Donc, tous les détails et d'autres événements sur le média réseauforum.org.
Si je peux me permettre d'ajouter un événement, Michael, à ton calendrier, le 20 octobre prochain au Club Soda, c'est à Montréal, par contre, c'est pas à Québec, les humoristes Boucard Diouf, Emmanuel Bilodeau, François Bellefeuille, Guillaume Wagner, Fred Dubé, les apartistes, plein d'autres humoristes vont être présents pour faire un spectacle bénéfice. Ça s'appelle le déversement d'humoristes et ce sera fait au profit du Centre québécois du droit environnemental avec contribution volontaire. Je trouvais que c'était de circonstance de mentionner, étant donné qu'on a parlé à Karine Pelloffi. Donc, voilà. C'est au Club Soda. Oui, voilà. Club Soda, puis je ne sais pas à quelle heure, mais si vous allez sur le site du CQDE, vous allez le trouver. Donc, on arrive déjà au mot de la fin. Oui. Alors, je vais remercier nos invités, nos généreux invités, Nicolas Falcimeng, journaliste indépendant du journal coopératif Ensemble, Émile Vigneault de Bombe sur rail et Karine Pelloffi, avocate spécialisée en environnement au Centre québécois du droit environnemental. Et je remercie aussi toute l'équipe qui rend cette émission possible, Étienne Blondeau qui a coordonné cette émission, Michael Lessard, webmestre du média réseauforum.org et David-Maxime Sanson à la technique. Pour écouter nos émissions en ligne, oui, Miguel?
Juste rappeler que le journal Ensemble est lisible sur Internet.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié de le mentionner. Si vous voulez lire ce journal, il est en ligne et c'est un journal qui est implanté en région. Donc, vous risquez d'avoir des nouvelles de votre coin de pays. Pour écouter en ligne nos émissions ou pour commenter, vous pouvez visiter notre site legraindesableqc.wordpress.com où vous trouverez aussi un lien vers notre page Facebook. On a bien hâte de vous lire. Donc, c'était Marie-Christine Aubin-Côté, de Marie à l'antenne pour écouter les Geeks contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts.
Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
89.1.
Sillon célèbre ses 30 ans en petit, tout petit, tout petit prix sur des dizaines de nouveautés, dont celles de Leonard Cohen, des Bar Brothers, de Betty Bonifaci, d'Arthur H., de Mara Tremblay ou de Chloé Sainte-Marie. De plus, à l'achat d'un deuxième album, n'importe lequel, obtenez un gros rabais de 30% sur son prix régulier. Sillon le disquaire qui aime la musique depuis 30 ans au cœur des Québécois. Pour son choix diversifié, pour son service et pour ses petits prix. L'orgue et les hommes. Sillon le disquaire, 1149 Avenue Cartier.
Il t'a trompé, il t'a menti. Tu es cocu, d'accord, mais si tu regardes bien, il a limité sa faute.
Qu'est-ce que ça veut dire, limiter sa faute?
Il aurait pu accepter l'enfant ou même complètement s'en foutre. En plus, elle lui demandait même pas de le reconnaître. Elle voulait juste garder un petit bout de lui. Comme ça, en souvenir. Et ben même ça, il a refusé. Ça prouve qu'il a encore quelques principes et des sentiments pour toi. Et puis c'est elle-même qui l'a dit.
C'était juste pour ses fesses.
Une simple histoire de fesses, qu'est-ce que c'est? C'est rien.
Éric Assou et les mensonges. Au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec, du 12 au 18 octobre. Réservé au 418-643-2139.
Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 26 octobre, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL.
Alors, est-ce que monsieur a choisi?
Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît.
Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes...
Ah non, excusez.
La bisque de homard, la poutine au foie gras...
Excusez.
La salade d'artichaut...
Mais...
Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout?
Ouais.
Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca.
Assistez à une rencontre hors du commun entre l'écrit et l'image le mardi 14 octobre prochain dans le cadre du festival Québec en toutes lettres lors du spectacle Paroles sur image. Pour un soir seulement, 4 auteurs et 4 dessinateurs unissent leurs forces pour créer 4 œuvres originales lues et illustrées en direct. Découvrez les créations de Webster, Catherine Dorion, Pierre Bouchard, Bach et plusieurs autres.
Parole sur image, le 14 octobre, 21h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Macarons de festivalier obligatoire. Réservation au 418-641-6788, poste 125 ou à info@quebecentoutelettres.com. Une production de Parenthèse 9, présentée grâce au soutien de Première Ovation et en collaboration avec Le Cercle, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et CKRL. Psst, vous ne pouvez pas vous rendre sur place? Écoutez la lecture des textes en direct sur les ondes.